Avec Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. Il était une fois le conte, une émission pour s'instruire, découvrir, rêver. Il était une fois le conte, une émission téléchargeable sur le site ilétaitunefoislecompte.wordpress.com. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
Moi je raconte des histoires que vous m'avez contées. Je les compte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer. Car du fond de mon cœur, c'est vous qui parlez. Je suis poète à mes heures. C'est de vous écouter parler de tout. Mais tout au long de mes rêves, et chaque fois que je m'arrête à penser, on me parle à l'oreille du courage, de tout ce qu'il faudrait changer. Mais de l'autre, j'entends qu'on préfère rester dans son coin. C'est le jour, c'est le temps, c'est dans l'air. Que c'est qu'on va chanter si on s'y laisse aller? C'est comme l'histoire des nuages, puis du vent qui arrêtait pas de souffler. On m'a dit qu'à l'orage, y a rien que le vent qui pouvait tout faire passer. Mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même si le vent peut faire peur, c'est lui qu'il faut chanter. À Saint-Élie Caxton, y a bien des paroles qui s'envolent. Et encore beaucoup de grand-mères qui restent.
Bonjour les gens et bienvenue pour cette 87e édition de Il était une fois le conte, joyeux podcast autour du conte et de l'oralité, des arts de la parole, tout ça. Celle-ci, c'est une conte en vrac, la 29e du conte et de la chanson, pas de thématique. Une émission en partenariat avec La Grande Oreille, la revue des contes, des conteurs et des arts de la parole et du récit. Vous retrouvez La Grande Oreille sur lagrandeoreille.com et puis dans les très bonnes médiathèques aussi. Et sur leur site internet. Donc, dans cette 87e émission pour les contes, le petit fourni fourmi par Yannick Jolin de l'album public Contes d'animaux. Jacques Pote Renard et autres chasseurs français par Pepito Matteo de l'album Sans les mains et en danseuse. Le rêve volé par Michel Faubert et Michel Lindenock de l'album en public Contes et complaintes de voix contemporaines. Et ensuite, le dernier conte que je vous propose ce soir sera Le fidèle serviteur, la tour de l'eau, conte de tradition populaire par Loïc Pujol et Jean-Luc Thomas de l'album Histoire d'eau, d'arbres et de pierres. Le tout avec de la musique, le générique est baissé, toujours Fred Pellerin. Avec moi, je raconte des histoires, extrait de l'album en public. Comme une odeur de muscle, vous aurez remarqué que le générique, que le jingle... a changé, je l'ai refait, voilà. Suivi du coup de Nostalgie, après il y aura en musique donc Fred Pellerin avec Je raconte des histoires, moi je raconte des histoires, après ce sera Nostalgique par les Papa Gaius de l'album Calavari. Donc les Papa Gaius seront au Celtic Pub à Tarbes en mai, le 16 mai me semble-t-il, et puis moi aussi, et pour du compte, le Celtic Pub c'est à Tarbes, voilà, plus d'infos, tu cherches, tu te débrouilles. Le gros chat du marché dans les chansons par Gilbert Lafaye de l'album Tout m'étonne. Après ce sera Il y a un monstre sous mon lit par Renaud de l'album Les mômes et les enfants d'abord. Et on se clôturera cette émission avec Refrain de pèlerin et Au commencement du monde de l'album Silence. Si vous êtes conteur, si vous racontez des histoires, etc., si vous voulez causer dans le micro, si vous voulez faire de la pub, eh bien contactez-moi. Regardez les étoiles, racontez, allez voir des histoires et tout. Bonne écoute. avec Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. Il était une fois le conte, une émission pour s'instruire, découvrir, rêver. Il était une fois le conte, une émission téléchargeable sur le site ilétaitunefoislecompte.wordpress.com. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
Moi je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées.
Ce jour-là, il y avait un petit fourmi, mais on voyait bien qu'il était un fourmi. Il avait un sac à dos avec tous les autocollants de tous les pays qu'il avait traversés. Puis je voyais qu'il était pas un feignant. Hein. Puis il était rouge, boude, était... Et lui, il a raconté qu'il était parti depuis 200 ans en pèlerinage à Jérusalem.
Ah, les autres avaient fait « Oh, on se fait plus, aider modé. » Maintenant, on va en pèlerinage à Lourdes, à Tchernobyl ou à New York, mais...
Elle me dit, ah bon, vous savez pas? Puis il commence à raconter cette histoire. Ils étaient partis tous les trois. Ils se sont rencontrés à une crésaille, une croisée de chemin. Ils arrivaient chacun du village où tout le monde avait fini par fuir à cause de bagarres qu'on avait dans tous les coins. Puis ils se sont trouvés à la croisée de chemin, puis il y en a un qui a fait « Salam alaikum ». L'autre a fait « Shalom ». Puis le troisième a fait « La paix là-dedans ». Arrivant tous les trois, chacun lui direction. Il y en avait un qui avait un petit tapis de prière et puis une guitare. Était un gurlet. Vous connaissez les gurlets? Un petit grillon. L'été noir, il avait une guitare et il était heureux de vivre. Le deuxième, lui, était un inu. Inu. Vous connaissez pas les U? Inu, 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 un œuf. Il avait juste les cartes d'état-major et la kippa. Et le troisième était le petit fourmi avec son sac à dos puis son réchaud à gaz. C'est tout. Puis tous les trois, à la crise de chemin, le sont appoués, le sont posés, puis ils se sont dit, comment que se fait qu'on l'a tant dégénéré, alors qu'ils étions partis tous d'au même endroit, comment que se fait que chacun s'est battu au nom de sa vérité, qu'on est devenu la seule et unique, et qu'au nom de ça, on arrive à s'entretuer. Alors tous les trois l'avons décidé de repartir à la source, pour essayer de trouver à voir qu'on avait quelque chose qui s'était mal passé. Puis ils sont partis, puis ils sont organisés. Une équipe qui est bien organisée, c'est une équipe qui est bien organisée. Donc... Lui était l'intellectuel de la bande, l'était chargé de tous les matins de tracer l'azimut pour prendre le meilleur chemin, la meilleure direction pour faire le pèlerinage à Jérusalem en moins de temps possible. Le fourmi lui était chargé de l'intendance, manger, boire, moins de 500 calories par jour, pas possible de faire avancer le monde quand même. Et le troisième, le gurlet, lui, était la part l'impondérable de la troupe. Cette espèce de côté qui sert à rien, vous savez. Ce monde qui prend la guitare au soir au feu de camp, qui raconte nos affaires ou qui enchante. On sert à rien. On est comme les bouts au champ, vous savez. La partie qui n'est pas labourée dans un champ. On a une palisse, on a nos petits lapins, on a nos herbes. On sert à rien. On n'est pas rentable. Pourtant, est-ce qu'il donne la force de retourner au bout puis de repartir dans l'autre sens? Et lui, le gurlait tous les soirs, le prenait sa guitare et le chantait pour donner le plaisir au monde. Puis au début, on l'a bien été. On l'allait bien parce qu'on n'avait pas de problème non plus. On était bien, on faisait beau, bien un moment, on a commencé à monter la montagne, le temps qui a commencé à se gâter, on voyait plus rien en haut de la montagne, on avait une broue, un brouillard d'eau, fût de Dieu, puis à un moment donné, de l'autre côté, l'œuf a commencé à prendre de la vitesse, à rouler, burdada, 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 et chioc. C'était mouillé dans le bas. Et là, le gurlet qui était fragile psychologiquement, l'a posé la guitare, le s'est bouté dans un cru, puis il s'est mis à dormir. Alors le petit fourmi, il a dit, en souvenir d'eux autres, moi, il va finir le voyage. Et de même qu'il a pris son courage à deux mains, puis il a commencé à traverser la montagne qui était en face de lui, puis après, il a commencé à traverser le vent de galerne qui lui buffait dessus pour le faire tuer. Puis il a commencé à vouloir traverser une rivière où il avait de la glace qui était en embuscade. Puis à un moment, il trempe sa jambe dans l'eau, puis la glace se referme autour de lui et lui casse la jambe. Oh! Il commence à pédaler, à geindre, à faire « Oh, la gasse, comme t'es forte, t'as cassé la jambe de beau petit fourmi qui était parti d'aller pour faire un pèlerinage à Jérusalem. » Puis la gasse a dit « Oh oui, mais olé, parce que le soleil me chauffe pas. Si le soleil me chauffait, il fondrait, puis il te laisserait partir. T'as qu'à parler au soleil ?» Ah, le petit fourmi se dit « Vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. » Commence à parler au soleil. Il dit « Oh, le soleil, comme t'es fort !» Si tu faisais fondre la glace qui casse la jambe, d'un pauvre petit fourmi qui était parti pour faire un pèlerinage à Jérusalem. Ah, le soleil, il dit, oui, mais tu comprends. Oh là, un nuage qui est stationné juste devant ma fenêtre. Tant qu'il est là, il ne peut pas te reluser, il ne peut pas briller. Donc, tu n'as qu'à parler au nuage. Un petit fourmi parle au nuage. Il dit, oh, le nuage, comme t'es fort, t'as bris le soleil qui fait fondre la glace qui casse la jambe, d'un pauvre petit fourmi qui était parti pour faire. Oh, me semble que vous pourriez peut-être engraisser un peu la musique du film, là. Hein? Si vous m'aidiez un peu, une espèce de côté, en plus là, on est une espèce de, juste à l'abri d'un monument médiéval, on est quand même qu'à avoir quelque chose comme ça, de, puissant. Donc on va faire une espèce de Jérusalem. Hein? Le petit fourmi qui était parti n'aller pour faire un pèlerinage. Avec un crescendo, hein, faut vraiment... Donc, le petit fourmi qui était parti pour faire un pèlerinage. Le nuage lui dit « Oui, mais tu comprends, moi, la personne pour me buffer dessus, tant qu'il n'a pas de vent pour me buffer dessus, moi, il ne bouge pas. C'est comme s'il n'y avait pas d'essence dans mon moteur, tu comprends ?» Un petit fourmi parle au vent, il dit « Oh, le vent, comme t'es fort, si tu buffais sur le nuage qui... » Qu'est-ce qu'elle fait ?« Vous écoutez même pas, vous êtes en train de digérer !» Qui gâche le soleil qui fait fondre la glace qui casse la jambe, d'autres petits fourmis qui étaient partis n'avaient pas faire un pèlerinage. Et le vent dit Ouais, mais moi, on a un mur juste devant moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? T'as qu'à parler au mur, parle au mur, il dit là, le mur, comme t'es fort, t'arrêtes le vent, le vent. Qui buffe le nuage qui cache le soleil qui fait. Fond de la glace qui corse la jambe, dope aux petits fourmis qui étaient partis d'aller pour faire un pèlerinage. Et le mur dit, oui, mais moi, parce qu'il y a de la terre dans mon ventre. S'il n'avait pas de terre, il ne teindrait pas en pièce, mais il faut que tu parles à la terre. Ah, le petit fourmi parle à la terre, dit, oh, la terre, comme t'es forte. T'as fermé le ventre d'au mur, le mur. Le mur qui buffe le nuage. Le mur qui arrête le vent qui buffe le nuage grâce le soleil qui fait fondre la glace qui casse la jambe, nos pauvres petits fourmis qui étaient partis n'aller pour faire un pèlerinage. Et la terre, vous savez, est une grande dame, la terre, la plus grande de toutes. Et malgré les 5 à 6 milliards de poux qu'elle a dans les cheveux, elle a toujours une oreille qui est prête à entendre. Puis là, elle a juste entendu, elle a dit, attends, il va me secouer un peu, il va vous raboter dessus, tu vas voir. Puis elle a secoué un peu fort. Bon, au Japon, on l'a fait du dégât quand même. Hein. Mais le mur a été fendu, puis quand le vent s'est mis à buffer, elle a chassé le nuage, puis là, le soleil s'est mis à terluser, elle a fait fondre la glace, puis quand la glace a été fondue, le petit fourmi a sorti sur sa jambe qui était un peu moitié cassée. Et puis qui est parti en faisant 5 et 3 fois 8, 5 et 3 fois 8, 5 et 3 fois 8. Et il a terminé son pèlerinage à...
Avec Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. Il était une fois le conte, une émission pour s'instruire, découvrir, rêver. Il était une fois le conte, une émission téléchargeable sur le site ilétaitunefoislecompte.wordpress.com. Il était une fois le conte parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
Moi je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées.
Mais enfin, actuellement, il n'y a pas même un pays civilisé aussi. C'est un pays en ruine, qui est bon pays.
L'autre a gen loupeskit, daoutes kops, atene loukaifa, daoutes kops, garbura ou bigourda, daoutes kops, et tio, question nostalgique, ta quelle rubrique, tout est passat, et tio, question nostalgique, tout mélancolique, est-ce qu'il y a tao? Au café de janeta, d'autis cops. Torna a cau a cafeta, d'autis cops. A per ara mais un, d'autis cops. De visa en gascun, d'autis cops. Et jo, que soy nostalgic, la quero ripica, tu tens passat. Et jo, que soy nostalgic, tu melancolic. Gitan bate miok, dautes kops. Ebira rugarok, dautes kops. Anatua lupor, dautes kops. E creio ma chanson, dautes kops. Tchou 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 tchou.
Et quand vous gardiez vos moutons, vous aviez votre flûte avec vous?
Oh oui.
Et vous jouiez la flûte?
Oh, de temps en temps, quand ça me prenait.
Oui.
Et le copain me répondait, puis ouais,
il me répondait.
Oh oui.
Avec Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. Il était une fois le conte, une émission pour s'instruire, découvrir, rêver. Il était une fois le conte, une émission téléchargeable sur le site ilétaitunefoisleconte.wordpress.com. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
Moi je raconte des histoires que vous m'avez contées.
Tant, 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 tan tan ta tan. Mi fa sol fa mi 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 do si ré mi. En sixième, on avait un prof de musique. Il était fou de Dvorak. Mi, fa, sol, fa, mi, mi. Il nous faisait toujours écouter la symphonie du même nom. Mi, do, si, ré, mi. Il nous faisait même apprendre les notes par cœur. Et il faisait des dictées. Mi, fa, sol, fa, mi, mi. Nous, on s'en fichait totalement que Mimi soit restée dans le sofa avec Rémi au lieu de s'allonger sur le sol ciré pour faire dodo. Mi, do, si, ré, mi. Là, je suis à mi-côte. Et j'aperçois une femme au bord de la route. Elle pleure. Je lui fais signe, qu'est-ce qui se passe? Et là, la femme enlève sa perruque, et puis elle la lance en l'air, et la perruque m'atterrit sur la tête, et ça me fait des cheveux longs avec des moustaches en forme de guidon de vélo. Et la femme me dit « Vise au moins la lune, au pire tu finiras dans les étoiles !» Alors moi, je veux la remercier, je lui lance un de mes deux cartons qui me reste. Et le carton tombe à ses pieds, il y a une bourrasque devant et les livres s'ouvrent. Ça fait comme les pales d'une moissonneuse batteuse qui emporte la femme et un champ de maïs OGM. Et derrière, ça fait des petites poupées de maïs qui tombent. Mais moi, je peux pas m'arrêter. Je suis pris dans le peloton. Maintenant, ça bagarre. Aïe, ça casse les rayons. Allons, maintenant, il faut y aller en force. Je fais des queues de poisson. Là, je vais m'en sortir. J'y vais. Au prix d'efforts incroyables, j'arrive en haut de la côte. Et là, j'ai réussi à grimper sans mettre le pied par terre. Hé, hey, j'ai réussi, les gars. Oh, hé hey. Hé hey, oh, hé hey, oh.
Mais il n'y a plus personne. C'est dingue, ça. J'ai voulu me la jouer perso, je me retrouve tout seul. C'est un peu comme l'économie libérale. À la fin, il n'y en a plus qu'un, il a mangé tous les autres. Alors là, j'ai vraiment pas la pêche. Je me mets en pédalage automatique. Je me demande ce qui m'arrive, pourquoi je fais ce voyage. J'ai l'impression d'être comme un cheval qui reviendrait des croisades sans son cavalier. Ou plutôt comme un type qui s'apercevrait qu'il travaille depuis 10 ans en usine pour rembourser la salle à manger en merisier qu'il a dû acheter après le mariage avec une fille qu'il a mise enceinte sur un parking d'autoroute après avoir dansé en boîte sur l'été indien de Joe Dassin. Dormant, dormant charmant village, avec ses maisons à colombages, son clocher, ses animaux qui parlent, et attention à son virage. À la sortie de Dormant, il y a une courbe, elle est très très dangereuse. Et là, juste quand j'arrive dans cette courbe, je vois une voiture, c'est une BMW, mais dernier cri, vraiment... métallisée, magnifique, mais elle est retournée sur le toit, dis donc. En plus, ça vient de se passer parce que les roues tournent encore, la porte est entrouverte, et il y a un type qui est à côté de la voiture, en petit costume noir avec un attaché caisse à la main, il a l'air complètement sonné. On dirait un représentant de commerce. Je m'approche, je lui dis « Alors, vous voulez un coup de main? Ça va ?» Et le type, de me voir, ça le ragaillardit complètement. Il se met à me raconter une histoire de bar. Et il me dit, c'est un type qui arrive dans un bar, il dit, je voudrais un double whisky, s'il vous plaît. On lui sert un double whisky, hop, il le boit, il dit, je ne devrais pas avec ce que j'ai. Hein. Oh, oh. Bon, alors, je voudrais un double whisky, s'il vous plaît. On lui en resserre un deuxième, crac, il le boit, et il dit, je ne devrais pas avec ce que j'ai. Hein. Oh, oh. Alors, un double whisky, s'il vous plaît. Et je ne devrais pas avec ce que j'ai. Au bout de 7, le garçon lui dit, attendez, monsieur, là, je voudrais quand même savoir, moi, qu'est-ce que vous avez au juste? Et le type répond, j'ai qu'un euro. Bon, je dis au type, bien, elle est bien l'histoire là, elle est pas mal, hein, mais vous, comment vous allez? Et le type veut me raconter une deuxième histoire. Alors là, ça m'énerve, je l'attrape par la cravate, je lui noue la cravate au rétroviseur, je lui colle la langue sous l'essuie-glace et je lui dis, c'est pas la peine de me raconter l'histoire, vous venez juste de passer à côté de la mort. Et le type me répond, erreur, nuance, c'est la mort qui est passée à côté de moi. Et il me montre l'arrière de la voiture, et effectivement, dans la voiture, tout, à l'arrière, il y a une vieille femme toute ratatinée, avec un filet de sang qui coule sur sa tempe, et elle a une fausse sur les genoux. Mais je lui dis, elle est encore inconsciente ou elle est vraiment morte? Et le type ne me répond pas.
Et alors là, je me dis que je dois être entre la mort et un fou. Et ça me fait penser que je dois être dans un jeu de tarot. Mais moi, je ne sais pas quelle carte je suis et j'ai surtout pas envie qu'on me joue. Et la seule chose que je réalise, c'est qu'il faut que je me répare. Mais pour me réparer, c'est difficile à expliquer, il faut que j'amène le type dans un garage. Alors je lui dis au type de s'asseoir sur mon porte-bagages. Mais en fait, le type, il est lourd. Il est en plomb, ce type. Je savais qu'il était un peu lourd, mais là, il est vraiment lourd. La jante, elle est écrasée par terre. Et puis en plus, il a des jambes longues, ce type. Mais c'est incroyable d'avoir des jambes longues comme ça, c'est pas croyable. Je lui dis, rentrez les pieds dans les sacoches, ça évitera que ça traîne. Il me dit, je peux pas, il y a un renard qui est en train de me décortiquer les orteils. Je ne sais pas si vous voyez la situation là. On est en novembre, il fait un froid de canard, il y a le vent de face, il y a la grêle, j'ai froid aux mains. Le type me serre le cou, j'ai à peine de quoi respirer, je roule à 3 à l'heure. Là je me dis, là si je lâche, là c'est fini. Là je tombe dans le fossé, c'est fini, je repartirai plus jamais, terminé. Il faut que je trouve quelque chose. Et alors je dis au type, et alors comment vous en êtes arrivé là ? En fait, je m'en fiche totalement, hein. C'est uniquement pour penser à autre chose. Et le type qui est derrière moi, qui me serre le kiki, il me répond, « Oh, ça c'est dingue. L'autre jour, j'étais en ville, je vois un copain qui passe. Je lui dis, « Tiens, dis donc, tu pourrais pas m'héberger ce soir ?» Il me dit, « Ouais, tu sais, ça m'arrange pas, tu dormiras sur la moquette, puis je me lève à 7h du matin parce que j'ai des choses à faire, on se verra pas. » J'ai dit, écoute, c'est pas grave, ça me dépanne, tu vois, c'est juste pour une nuit, quoi. Enfin bref, je dors chez lui tant bien que mal. Le matin, à 7h, il était parti, donc voilà, je me lève, je prends un petit café avant de partir. Et là, sur la table, j'aperçois un billet à gratter. Ça s'appelle un jackpot. Je dis, c'est dingue quand même. Parce que le billet n'était pas gratté. C'est dingue que le pote Jacques ait laissé le billet pas gratté sur la table. Parce que lui, il est radin. Il est toujours près de ses sous. Il rêve toujours d'avoir une super bagnole et tout ça. Puis il n'a jamais un flèche. Et là, il a laissé le billet pas gratté. Je dis, ça lui ressemble pas. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, c'est peut-être pour moi. Voilà, je dis, là tu fantasmes. Parce que là, déjà, qu'il ne t'invite pas et que tu t'imposes, en plus, il te laisserait ça. Mais ça commence à me prendre le chou, le truc. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu qu'avec le bout de la cuillère, j'avais commencé à gratter le coin. Alors là je me suis dit, là, il ne va pas être content. Hein, parce qu'il va voir que tu as fait une tentative. Ça ne va pas le faire. Hein, et ça m'a pris tellement le chou, j'ai gratté le billet entièrement. Je me suis aperçu qu'il était perdu. Alors là, je me suis tutoyé. J'ai dit, là, tu vois, tu fais une grosse erreur, là. Parce que là, il va pas être du tout content. Alors, tu as intérêt à jeter ce billet dans la corbeille. Et toi, tu vas en acheter un au café tabac en face et tu le mets à la place. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été chercher un billet au café d'en face. Je l'ai posé sur la table et je suis sorti. Enfin, j'allais sortir. Mais à ce moment-là, j'ai eu le malheur de regarder le billet. Oh, je me suis dit, c'est dingue, celui-là, il est juste devant moi, là. Et si ça se trouve, c'est le gros lot. C'est un truc, peut-être, tu touches une fois toutes les 5 vies, tu vois. Un truc, tu peux t'acheter un manoir, une ceinture en cuir, enfin, un truc. Et là, il est devant moi, il me regarde, et on dirait qu'il me tend les mains, et en plus, c'est moi qui l'ai acheté. Oui, je me dis, parce que là, c'est quand même avec mon argent que je l'ai acheté. Non, parce que lui, le sien, qu'il avait acheté avec son argent, il a perdu. Hein, donc, on peut dire déjà qu'avant de commencer le tirage, lui, il est déjà éliminé. Enfin, ça m'a pris vraiment, vraiment, vraiment la tête, ce truc. Au bout d'un moment, je suis précipité sur le billet, je l'ai gratté, et je me suis aperçu qu'il était perdu. Alors là, j'ai dit, voilà, maintenant, tu réfléchis plus, je me suis dit. Hein, tu vas au bureau de tabac en face, tu en achètes un, tu reviens comme un fantôme, et je suis allé au café d'en face, j'ai acheté un billet, je suis revenu comme un fantôme, sans réfléchir, et en cours de route, sans réfléchir, j'ai commencé à le gratter. Et alors, une chance inouïe, j'ai vu qu'il était remboursé 2 fois. Là, j'ai dit, là, t'as une chance incroyable. Je suis allé au bureau de tabac, j'ai acheté 2 billets. Je ne les ai pas rapprochés l'un de l'autre, je les ai vraiment tenus à distance. Je suis revenu à l'appartement, J'ai fait un tour de passe-passe, j'ai posé un des billets sur la table, l'autre, je l'ai glissé dans ma poche, je suis sorti à reculons, j'ai refermé la porte, j'ai mis la clé dans la boîte aux lettres, et comme ça, je ne pouvais plus revenir. Et c'est ce que j'ai fait. Une semaine plus tard, c'est-à-dire ce matin, je passe dans la rue, et je vois passer une bagnole, une BMW métallisée, dernier modèle, une super bagnole. Et qu'est-ce que je vois dedans? Mon pote Jacques. Et j'ai dit, mais dis-donc Jacques, t'aurais pas gagné au jackpot par hasard? Il me dit, ouais, salut. J'ai dit, non, tu t'arrêtes. Il me dit, j'ai pas le temps. Je dis, comment t'as pas le temps? Arrête-toi, je te dois bien un café. Bon, j'ai arrêté la circulation. Je lui ai dit, allez, fais ton créneau là-haut. Tu vas me montrer comment tu l'as conduit. Bon, il s'est garé, on rentre dans le café. Il disait rien. J'ai dit, ben alors, tu me racontes? Il me dit, non, j'ai mal au ventre. J'ai dit, allez, oh, oh. Et au bout d'un moment, il va aux toilettes. Il disait rien. Et il revenait pas. Il avait laissé des clés de la voiture sur la table. Bon, je dis, je vais aller voir la bagnole d'un peu plus près. J'arrive, tu sais, la bagnole, j'appuie sur le cliquet. La porte s'ouvre. Non, la porte, elle s'ouvre d'elle-même pour t'inviter à rentrer, tu vois. C'est dingue, à l'intérieur des sièges en cuir rouge, ça sent bon, c'est incroyable. Je m'assois dedans, je lui dis, tiens, je vais mettre le moteur. Le moteur, tu ne l'entends pas. Bon, je regarde, mon copain, il ne revenait pas. Bon, ben, je dis, alors, je vais faire un tour de pâté de maison. Attends, je peux quand même faire un tour de pâté de maison avec ma bagnole, non? Bon, je déboîte. Oh, les longs. Voilà, super, j'arrive au coin de la rue. Il faisait des travaux. Je dis, on ne peut pas passer. Il me dit, non, il faut prendre l'avenue. Mais je dis, moi ça ne m'arrange pas parce que je voulais... Il me dit, tu prends l'avenue. Bon, alors, je me retrouve dans une grande avenue. Impossible de prendre à droite. Et alors, que des feux verts dans l'avenue. J'essaie de ralentir, mais les autres derrière, alors, allez, avance, achète un âne. Bon, à un moment donné, que les feux verts, je me retrouve sur la nationale. Puis, moi, j'adore la vitesse. Alors là, waouh, j'ai mis la radio à fond. J'avais le plein d'essence, j'ai roulé, mais alors, sans plus me soucier de rien. Et puis, au bout d'un moment, comme ça, il y a une idée qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais tiens, mon billet à moi, je ne l'ai toujours pas gratté, il est dans ma poche. Alors là, j'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti le billet, et j'ai dit, attention, un bonheur n'arrive jamais seul. J'ai gratté le billet, et là, j'ai pas vu la courbe de dormant, et je me suis retourné, quoi. Là, c'est le type derrière moi hein, qui me raconte l'histoire. Moi, je suis de plus en plus essoufflé. Et je lui dis au type, mais alors, votre billet à vous, il était gagnant ou pas? Et le type me répond, mais j'ai pas eu le temps de le gratter. Et là, il refouille dans sa poche. Sauf qu'en lâchant les mains, il est tombé en arrière. Et il est rentré comme une chambre à air dans un garage. Mais moi, sous l'effet de son poids en moins, c'est l'effet bouteille de gaz, tu vois, C'est un type qui marche dans le désert, il porte une bouteille de gaz hyper lourde et les gens lui disent « Attends, la bouteille que tu portes là, elle va pas être d'une grande utilité dans le désert. » Et lui dit « Détrompez-vous, parce que moi si je vois un tigre, je lâche la bouteille de gaz et là je vais courir 10 fois plus vite. » Donc voilà, je suis parti à une vitesse, mais alors j'ai avalé les kilomètres, j'ai fait les 2/3 du parcours à tout. Les lignes pointillées, les platanes... Les gendarmes, vous avez les papiers du véhicule. Mais je serais arrivé au bout de mon voyage en rien de temps, hein, tellement j'allais vite. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai entendu un bruit dans le dérailleur. Je suis retourné. Et j'ai aperçu le renard. Le renard qui me suivait. Il essayait de me faire dérailler. Je lui ai dit, tu arrêtes. Il n'arrêtait pas. Là, je me suis arrêté. Je suis descendu du vélo, j'ai vu que le renard avait une maladie dans l'œil. J'ai dit attention, méfiance. J'ai tourné autour du renard qui tournait en sens inverse autour du vélo. À un moment donné, je suis passé discrètement près de la sacoche, tac, j'ai pris la betterave et voilà, assommé. Et alors, juste à ce moment-là, il y a 4 chasseurs français de souche qui sortent de derrière un bois de chêne et qui s'approchent. Et un des 4 chasseurs me dit « C'est combien pour la peau du renard ?» Et je lui dis « Il est gratis, hein. Tenez, je vous donne le renard et même je vous donne ma betterave. Parce que moi, je reprends mon vélo et je continue mon voyage. J'ai plus que mon dernier tronçon à faire et là, ça va rouler. Parce que mes parents, ils m'ont toujours dit que j'avais la bougeotte. » Et il y a un des types qui s'approche et il dit « Ça va pas se passer comme ça. » Il m'attrape par la peau du dos avec le vélo et le renard. et il m'emmène dans un bar de village. Là, on se retrouve autour d'une table en formica jaune et les quatre types sont assis en face de moi et me disent « Alors, tu veux boire quoi ?» Et moi, je dis « Je voudrais bien un verre de limonade et comme ça, après, hop, je termine ma course. » Et là, il m'amène un gros ballon de vin rouge, mais du gros rouge qui tache. Là, je me suis dit « Ça commence mal, d'autant plus que les gars, ils commencent à se faire des signes, des clins d'œil, des petits mouvements de doigts. » Et là, j'ai réalisé qu'on était en train de jouer au poker. Et moi, je ne savais pas jouer au poker. Et les types voulaient me plumer. Mais alors, ce qui est vraiment étonnant, c'est que plus on jouait, plus je gagnais. Les billets s'entassaient devant moi, je gagnais de plus en plus d'argent. Et au bout d'un moment, les types devenaient rouges de colère. Il y en avait une crête de coq. Il y en avait un autre, il avait la chair de poule. Un autre, il avait une moustache avec un bec de lièvre. Et le dernier, il avait un costume en prince de Galles. Au bout d'un moment, j'ai senti qu'on me faisait du pied sous la table. Je me suis dit, c'est quand même pas le moustachu qui me prend pour un dindon. J'ai regardé et j'ai aperçu la queue du renard qui bougeait. En fait, le renard était en train de se réveiller. Alors moi, tac, j'ai poussé le renard qui a mordu un des types. Et le type est devenu enragé. Il a mordu son voisin qui est devenu enragé. Et tous, ils sont devenus enragés, ils ont commencé à tirer des coups de feu dans toute la salle. Alors moi, j'ai ramassé tous les billets et loup, je me suis sauvé par la fenêtre. Sauf que le renard essayait de me suivre. J'ai voulu refermer la fenêtre et je lui ai coincé le museau. Et du coup, il y a une tempête qui s'est déclenchée. Tous mes billets se sont envolés. J'ai juste eu le temps d'en sauver un seul que j'ai glissé dans la petite poche de ma veste. Et là, j'ai repris mon vélo en marche arrière pour bien regarder si personne me suivait, ni les chasseurs, ni le renard. Et j'ai foncé le plus vite que j'ai pu. Et quand j'ai été sûr que personne ne me suivait, je me suis retourné. Sauf que là, j'ai aperçu un mur de caserne qui arrivait à une vitesse folle. J'ai voulu freiner, mais on m'avait sélectionné mes freins. Et là, j'ai pris le mur en pleine poire. Et tellement fort que je me suis mis à chanter un air d'opéra, ce qui est quand même assez rare chez moi. En fait, c'est moi qui chantais dans ma tête et j'étais en train de faire du vélo en pédalant à côté du vélo. C'était vraiment curieux. Et c'est là que je me suis souvenu d'un proverbe qui disait « Quand une pierre tombe sur un œuf, l'œuf s'écrase. » Et quand c'est l'œuf qui tombe sur la pierre, eh ben c'est pareil.
Avec « Il était une fois le conte », moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. « Il était une fois le conte », une émission pour s'instruire, découvrir, rêver. « Il était une fois le conte », une émission téléchargeable sur le site ilétaitunefoislecompte.wordpress.com. Il était une fois le compte parce que les comptes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
Moi je raconte des histoires que vous m'avez contées.
Comment vous saviez pas? Elle a perdu son chat, le gros chat Angora, qu'elle emmenait au marché. Comment vous saviez pas? Elle a perdu son chat, perdu, enfin perdu. Moi je dis qu'on lui a volé, gnac 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 gnac. Oh, quand on voit ce qu'est devenu notre quartier, ah c'est plus que c'était, y a pas de quoi s'étonner. Comment vous saviez pas? On lui a volé son chat, le gros chat Angora, qu'elle emmenait au marché. Comment vous saviez pas? On lui a volé son chat, volé, enfin volé. Peut-être bien qu'ils l'ont mangé, gnac, 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 gnac. Oh, quand on voit ce qu'est devenu notre quartier, il faut s'attendre à tout avec ces étrangers. Comment vous saviez pas? Maintenant ils volent les chats. On commence par les chats et va savoir après. Comment vous saviez pas? Ils habitent à côté, à 15 dans un galta, sans eau et sans WC, gnac, 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 gnac. Oh, quand on voit ce qu'est devenu notre quartier, si c'est pas malheureux, manger des chats français. Comment vous saviez pas? Tout le monde ne parle que de ça. La fille, la dame au chat, dit qu'elle s'est fait violer. Comment vous saviez pas? Paraît qu'ils l'ont droguée. Et qui voulait l'emmener dans leur pays là-bas? Gnac, 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 gnac. Quand on voit ce qu'est devenu notre quartier, il faudrait plus de rondes, on n'est pas protégé. Comment vous saviez pas? On forme un comité pour les faire expulser avant qu'il y ait d'autres dégâts. Le frère de mon beau-père connaît l'adjoint au maire qui dit que le député couvrira toute l'affaire. Gnac, 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 gnac. Oh, quand on voit ce qu'est devenu notre quartier, il était temps, dites-moi, on n'a que trop tardé. Comment vous saviez pas? Elle a retrouvé son chat. Son chat, comment, quel chat? De quel chat vous parlez? Le gros chat Angora qu'elle emmenait au marché. Ah, le chat du marché, oui. Oui, je l'avais oublié.
Eh bien, c'est une histoire qui est arrivée à un jeune homme, un étudiant. Il habitait dans les quartiers nord, il fait trois quarts d'heure pour aller à l'université, trois quarts d'heure pour revenir. Mais bon, il n'était pas le seul comme ça. Ah bon, il faisait sa petite vie, puis finalement ça se passait bien. Et puis, un matin, il s'est réveillé. Il avait fait un drôle de rêve. Bizarre. Il se sentait mal à l'aise. Toute la matinée, c'était un rêve. Oh. Bon, puis après, il a pensé à autre chose. La journée s'est passée, le soir, il s'est couché. Le lendemain matin, il s'est réveillé. Il venait de faire deux fois le même rêve. Oh, s'il dit ça, un rêve qui insiste, ça. Alors, à l'université, il y en avait qui s'occupaient de ça, qui étudiaient ça. Alors, il a été les voir pour essayer de comprendre. Et malheureusement, il a compris, lui, que ben, c'est pas ça du tout qu'ils étudiaient, non, non. Enfin bon, il a pensé à autre chose, et puis le soir, il s'est couché. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il venait de faire trois fois le même rêve. Oh, s'il dit ça, c'est un rêve, il faut que je m'en occupe. Alors, vous savez ce qu'il faut faire, hein, dans ces cas-là. On les connaît, on sait où ils habitent, ben, faut y aller. Lui, il savait pas trop s'il fallait y croire, si c'était vrai, si c'est vrai ce qu'on disait, enfin bon... De toute façon, il n'avait plus le choix, et avec cette solution-là, alors ben, il a quitté le quartier nord, puis il est descendu un peu dans les vieux quartiers, près de la rivière. Il a pris la petite rue. On savait qu'elle habitait là. Il est arrivé devant la porte, puis à côté de la porte, il y a une petite plaque, c'était écrit « Je lis les rêves, les songes, les présages ». Alors, il a appuyé sur la sonnette. Et puis, il y a la porte qui s'est ouverte. Puis, il y a une vieille dame qui l'a fait entrer. Il l'a fait passer par un petit couloir. Ils l'ont fait asseoir sur un fauteuil dans une toute petite pièce. Et puis, elle a refermé la porte. Et lui, ben, il a attendu. C'était pas très grand. Il y a un petit guéridon, là, avec un vase et puis des glaïeuls. Puis il y avait un petit napperon avec des perles pour que ça pique bien, comme ça. Puis il y avait un fauteuil devant, puis il y avait une fenêtre qui donnait sur la cour. Puis tout à coup, il s'est aperçu que le fauteuil était habité. Toute coincée dans le fauteuil, il y avait une toute petite vieille qui pouffait le rire depuis un quart d'heure. Elle disait, ben dis donc mon ami, alors là vraiment, hein, vous m'avez l'air mal en point. Vous avez fait un rêve, c'est ça? Oui. Bon, allez, racontez-le-moi. Alors, il a raconté son rêve. Et la vieille, elle a écouté. Puis quand il a fini de raconter, elle continue encore à écouter. Puis elle a dit, c'est vrai, il est bizarre, votre rêve, il est étrange. Mais vous inquiétez pas, il veut rien dire. Oui, mais je l'ai fait trois fois, ça. Ça arrive. Ne vous inquiétez pas, c'est un rêve insignifiant, laissez-le passer comme les nuages. Aucune importance. Alors, il s'est senti tout d'un coup soulagé, mais un petit peu déçu, il pensait... Bon, alors il s'apprêtait à se lever, puis à quitter, laisser la place. Elle a dit, attendez, vous n'êtes pas pressé? Et il dit, ben non, mais asseyez-vous, Vous buvez du thé?
Oui. Parce que justement, j'allais prendre le thé. Hein? On va prendre le thé tous les deux. Allez. Elle a sorti le thé, l'a versé, les petits gâteaux, ils ont commencé à manger, à discuter. Elle a demandé d'où il venait, alors il a raconté d'où il venait, puis elle a raconté comment c'était avant dans le quartier, puis commençait vraiment à se sentir bien, à devenir les meilleurs amis du monde, quand tout à coup on a entendu un grand bruit, un tintamarre, il y avait un jeune qui tapait à la porte, c'était le fils du maire. Et son temps était précieux, il a fait un rêve, il voulait l'explication, puis bon, hein, c'est pas n'importe qui. Alors ben, l'étudiant, à nouveau, il s'est levé, il fallait qu'il laisse la place. Et elle lui a dit, attendez, je vais recevoir ce jeune impatient, mais en attendant, allez dans la petite pièce à côté. Puis quand j'en aurai fini avec ce jeune homme, nous prendrons notre petite conversation. Il était dans la pièce à côté. Et le fils du maire, il est rentré, il a posé ses bottes sur le bouquet de l'aïeul, puis il a commencé à raconter son rêve. C'était un rêve pas compliqué, mais pff, enfin. Elle a écouté, et puis quand il a eu fini de raconter, elle a continué à écouter. Puis elle a dit, ben alors, vraiment, jeune homme, hein, je crois bien que dans ma carrière, j'ai jamais entendu un rêve comme celui-là. Vous avez une chance extraordinaire, mon ami. Ce rêve-là, il vous prédit un avenir fabuleux. Vous allez devenir riche, aimé, puissant. Vous allez épouser une princesse de sang royal. Et vous allez vivre jusqu'à 100 ans. Vraiment, quand on fait un rêve comme ça, faites bien attention. Gardez-le bien pour vous. Surtout, ne le racontez à personne. Tout content, il a fait sonner son argent sur la table. Puis il est parti en faisant toujours autant de bruit. Puis clac, le silence est revenu. Alors le jeune homme, il est revenu de la petite pièce, ils ont continué à boire le thé, à discuter, l'après-midi est arrivé, passé. Puis ça le tracassait quand même, il a dit, mais tout à l'heure, là, le fils du maire, là, pourquoi vous lui avez dit de raconter son rêve à personne, de le garder pour lui? Mais enfin, réfléchissez. Imaginez qu'il le raconte à quelqu'un, puis que ce quelqu'un... Ils viennent sonner à ma porte et puis qu'ils viennent me le raconter. Moi, je serais obligé de lui prédire à lui un avenir fabuleux, une princesse de sang royal. Ce serait pas juste quand même, non? Trouvez pas? Elle a juste eu le temps de voir dans l'œil de l'étudiant comme une petite lueur de malice. Elle a dit, oh, non, ça se fait pas. Oh, puis après tout, vous m'êtes bien sympathique, et puis moi, à mon âge, je peux me permettre un petit caprice. Vous l'avez bien entendu, son rêve? Ben, je pense bien, vous pensez bien, il a parlé tellement fort. Bon, ben écoutez, on peut toujours essayer. Vous allez sortir, vous allez sonner à nouveau, vous allez me le raconter comme si vous l'aviez fait vous-même, puis on verra bien. Eh ben, c'est ce qu'il a fait, il est sorti, il a sonné, il a raconté son rêve. Eh ben, quelques années plus tard, il a réussi brillamment ses études. Sorti major de l'université. Il est devenu riche, aimé, il a épousé une princesse de sang royal et il a vécu jusqu'à 100 ans. Tout ça pour avoir osé une fois voler un rêve. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que ce rêve-là, c'est pas un rêve compliqué du tout, vous savez. Le fils du maire, il avait tout simplement rêvé. Oui, mais ça sert à rien que je vous le dise, parce que celui-là, maintenant, il est déjà pris.
Avec Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. Il était une fois le conte, une émission pour s'instruire, découvrir, rêver. Il était une fois le conte, une émission téléchargeable sur le site ilétaitunefoislecompte.wordpress.com. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
Moi je raconte des histoires que vous m'avez contées.
Il y a un monstre sous mon lit. Je crois qu'il a fait pipi. Il était sûrement planqué derrière le canapé. Il devait être roulé en boule dans mes fringues en vrac. C'est pas franchement super cool et ça me fout le trac. Moi j'en ai un petit peu marre. Toutes les nuits flipper à mort. Toutes les nuits faire des cauchemars. Pourtant je suis très très fort. Il bouge pas, il fait silence. Je sais qu'il est là. Je l'attends avec impatience, assis sur mon matelas. Et s'il bouge une oreille, je lui fracasse la tête. Je téléphone à Popeye, le plus fort de la planète. Y'a un monstre sous mon lit, je crois qu'il a fait caca. Non mais il se croit chez lui, en dessous de mon lit à moi. Il a beau pas faire de bruit, je le sens qui bouge. Même s'il se cache dans la nuit, je vois un truc rouge. Il doit avoir d'affreuses dents, va me dévorer tout cru. Et s'il rentre dedans, moi je lui monte mon cul. Je lui fous une branlée d'enfer, je lui fais bouffer ses poils. Je le ligote au fil de fer, je lui arrache ses écailles. Même si j'ai un petit peu peur, je ne crains pas ce gros nul. J'adore pas les films d'horreur où les monstres pullulent. Y'a un monstre sous mon lit, je crois bien qu'il a vomi. Ça sent un peu la marée, une odeur à gerber. La peinture à mouffeter, où j'appelle ma mère, qui va encore me gronder, me faire des misères. Au lieu de me consoler, elle va me faire la morale, pour que je pionce comme un bébé, qu'elle me foute une mandale. N'empêche que si c'est le diable qui est planqué sous mon pieu, bien que je croie à peau de balle, je veux bien croire en Dieu. Qui me bénisse, qui me protège, moi qui n'ai peur de rien. J'ai 10 ans et bientôt 13, je suis encore qu'un gamin. Y'a un monstre sous mon lit, je crois bien qu'il a pété. Je vais continuer ma nuit, ce dragon à mes côtés.
Un jour, il y avait un prince qui, en fouillant dans les papiers de son père, découvrit le portrait d'une princesse si belle qu'il en tomba amoureux. Il vint trouver son père, lui annonça qu'il avait décidé de se marier. Il lui montra le portrait de sa future épouse. Mais son père lui apprit qu'il s'agissait là de la fille du roi d'Almar. Le roi d'Almar était un grand magicien. Il avait enfermé sa fille dans son château depuis l'âge de ses 12 ans. Personne ne pouvait l'approcher. Elle était si bien gardée, et les pouvoirs du magicien si redoutés que personne, un jour, ne pouvait espérer l'approcher. Mais le prince se mit en tête d'aller la délivrer. Et son père dut le laisser partir. Il lui conseilla cependant d'emmener avec lui son vieux valet, qui était toujours de bons conseils. Le lendemain, le prince partit dans son carrosse avec son vieux valet. Il ne savait trop dans quelle direction aller, alors il prenait les routes au hasard. Ils furent surpris un soir dans la forêt. Ils décidèrent donc d'y passer la nuit. Le prince s'endormit dans le carrosse, et le valet trouva 2 racines de chêne qui sortaient de terre, laissant un beau berceau de feuilles et de mousse. Le vieux valet se blottit entre les 2 racines du chêne, il rabattit des fougères sur lui en guise de couverture et il s'endormit au pied de l'arbre. Vers minuit, il sentit de grands froissements d'ailes tout autour de lui. Il leva la tête et il vit sur les plus hautes branches de l'arbre 3 fauteuils posés en équilibre. Sur chacun des fauteuils, il y avait un tout petit vieillard, tout courbé et tordu. Les vieillards se mirent à parler. Ils discutaient. Ils parlaient un langage étrange. Et le vieux valet comprenait tout ce qu'ils disaient. Ils parlaient de toutes les embûches que le prince et son vieux valet allaient trouver sur la route menant à la ville du roi d'Almar. Ils ont discuté comme ça pendant toute la nuit. Au lever du jour, Les vieillards ont disparu. On a entendu de grands bruits d'ailes tout autour de l'arbre. Et le prince et le valet ont continué leur chemin. À la sortie de la forêt, ils sont arrivés devant un immense fleuve au courant rapide. Le fleuve ne portait ni passeurs ni bateaux. « Nous ne pourrons pas continuer par là, » dit le prince. « Si, c'est dans cette direction qu'il faut aller, » dit le valet. « Mais à partir de maintenant, il faut m'obéir en tout point et surtout ne poser aucune question. » Le prince accepta et son vieux valet se mit à fouiller dans un buisson de noisetiers. Il coupa une branche avec son couteau. Il enleva l'écorce de cette branche qui devint une baguette toute blanche. Et avec cette baguette, il se mit à frapper 3 coups sur l'eau. Et aussitôt, un pont surgit de terre et s'élança jusqu'à l'autre rive. Le prince n'en croyait pas ses yeux, mais le valet était déjà dans le carrosse et lui disait d'embarquer, car il n'avait pas une seconde à perdre. Ils traversèrent le pont. Ils arrivèrent dans la ville du roi d'Almar. Alors le valet présenta à son maître une robe couverte de perles et de dentelles et lui dit de l'enfiler. Le prince restait à regarder son valet et son valet lui expliqua qu'il devait se présenter ainsi vêtu devant le roi d'Almar comme une amie de sa fille qu'elle avait connue en Espagne et qui était venue pour lui rendre visite. Le prince revêtit la robe, il se maquilla, il se coiffa et il se présenta tout tremblant devant le roi d'Almar en répétant ce que son valet lui avait dit de dire. Il fut bien étonné de voir que celui-ci accepta tout de suite l'entrevue entre les deux amis et qu'elles obtinrent même la permission de coucher dans la même chambre pour la nuit. Là, le prince dévoila à la princesse sa véritable identité. Il lui proposa de l'enlever pour ensuite l'épouser. La jeune fille s'empressa d'accepter. Il ouvrit la fenêtre de la chambre et son vieux valet qui l'attendait tout en bas avec le carrosse leur lança une corde. Les deux amants glissèrent le long de la corde et ils quittèrent discrètement le château. Ils quittèrent la ville et là ils partirent à toute allure en direction du pont. Mais bientôt ils sentirent la terre trembler sous eux. Ils entendirent le galop furieux d'une armée les poursuivre. Le roi d'Almar était en tête de l'armée. Tous les cavaliers hurlaient après le carrosse. Les chevaux les rattrapaient presque quand ils atteignaient le pont du grand fleuve. Sitôt sur l'autre rive, le valet sauta du carrosse, frappa 3 coups avec sa baguette sur le pont qui aussitôt tomba dans l'eau et disparut avec la cavalerie du roi. Tout le monde se noya, à l'exception du roi d'Almar qui reparut sur l'autre rive et promit aux 3 voyageurs qu'ils se retrouveraient sur le chemin du retour et qu'ils auraient à subir sa vengeance. Le prince, la princesse et le valet se sont arrêtés au même endroit dans la forêt pour passer la nuit. Le prince et la princesse se sont endormis dans le carrosse et le valet s'est couché au pied de l'arbre entre les grandes racines du chêne. À minuit, il a entendu les grands battements d'ailes se poser dans l'arbre au-dessus de lui. Puis il a entendu les voix des vieillards se remettre à discuter. Ils discutaient de toutes les épreuves que le roi d'Almar allait tendre sur le chemin du retour aux 3 voyageurs. Ils disaient comment s'y prendre pour lever les obstacles. Ils discutèrent ainsi toute la nuit. Les voix disparurent au lever du jour. Et les 3 voyageurs continuèrent leur chemin. À la sortie de la forêt, ils furent arrêtés par une troupe de voleurs. 12 voleurs, armés jusqu'aux dents, ordonnèrent au prince et à la princesse de descendre du carrosse. Le prince refusa. Et son valet lui chuchota dans l'oreille qu'il valait mieux obéir, se laisser faire, surtout de ne pas résister. Alors, Le prince a accepté, ils sont descendus du carrosse et les voleurs leur ont pris tout leur or, tout leur argent et tous leurs vêtements. Ils sont repartis dans le carrosse, les laissant tout nus comme au premier jour, à l'orée de la forêt. Alors comme les bêtes sauvages, ils sont retournés se cacher dans la forêt. Ils se cachaient pendant le jour, ils voyageaient pendant la nuit. Un soir, ils ont vu une petite chaumière avec une vieille femme sur le seuil de sa porte. Il y avait un écriteau sur le mur de la maison qui indiquait « Ici, l'on distribue à profusion et gratuitement toutes sortes de vêtements ». Le prince et la princesse se mirent à courir dans la direction de la maison. La vieille femme les fit entrer et leur dit de prendre tout ce qu'ils voulaient. À l'intérieur, accrochés au mur, il y avait des habits de toutes sortes de marquis, de duchesses, de princes. Ils n'avaient que l'embarras du choix. Mais tout à coup, tout se mit à brûler. La vieille femme disparut. Le valet qui avait mis le feu à la maison les prit par la main et ils s'enfuirent dans la forêt au plus vite. En arrivant auprès d'un étang, ils virent un homme qui était sur le point de se noyer et qui appelait au secours. Le prince allait tout naturellement se jeter à l'eau pour le sauver, mais son valet avait toutes les peines du monde à l'en empêcher. Il réussit à convaincre son maître de rester sur la rive et de le laisser s'occuper de cet homme tout seul. Il s'approcha de l'homme en faisant semblant de lui tendre la main, quand de son autre main, il sortit sa baguette blanche et se mit à frapper sur la tête de l'homme qui réclamait du secours jusqu'à ce qu'il disparaisse sous l'eau. Le valet continua sa route. Ils trouvèrent sur leur chemin de vieux vêtements, et ils firent ainsi vêtus leur entrée dans le palais du roi. Le vieux monarque reconnut son fils, et peu de temps après, on célébra le mariage du prince à la fille du roi d'Almar. Seulement, le prince ne cessait de venir trouver son fidèle serviteur. Il ne cessait de le presser de questions. Comment avait-il fait pour les sortir de tous les mauvais pas où il s'était trouvé ? Pourquoi avait-il agi ainsi avec les voleurs, avec la vieille femme, avec l'homme qui allait se noyer ? Mais son valet lui répétait toujours la même chose, qu'il ne pouvait rien lui dire, qu'il fallait attendre, qu'un jour il pourrait lui révéler toutes les choses étranges qu'il s'était passées. Mais que pour le moment, il fallait être patient. Mais la patience du prince ne voulait plus attendre, sa curiosité ne cessait de s'accroître. Un sabre sous la gorge de son valet, il l'a obligé à parler. Et le valet lui a raconté les nuits qu'il avait passées au pied du chêne dans la forêt. Il lui a parlé des trois vieillards sur les plus hautes branches de l'arbre. Il lui a parlé des clés qu'il lui avait données. Seulement, il ne devait rien dire de tout cela avant un an et un jour, car à présent, au fur et à mesure qu'il parlait, son corps se transformait en statue de marbre. Le prince voulait l'arrêter, mais il voulait savoir en même temps. Quand le valet eut fini de tout avouer, son corps était entièrement pétrifié. Le prince ne pouvait se consoler du malheur de son fidèle serviteur. Il cherchait à tout prix un moyen de le ramener à la vie. Alors l'idée lui vint d'aller passer une nuit au pied de l'arbre dans la forêt. Il s'adossa contre le tronc, entre les deux grosses racines qui sortaient de terre, et il attendit minuit. À minuit, il entendit les grands bruits d'ailes tout autour de lui. Il entendit les voix des vieillards Les vieillards discutèrent encore une fois toute la nuit. Le lendemain, quand retentit la première volée de cloches dans la ville, le prince égorgea son fils qui venait de naître. Il recueillit tout le sang de l'enfant dans un vase. Il en arrosa la statue de marbre qui se ranima peu à peu. Puis il remit le sang dans la bouche de l'enfant et le coucha dans son berceau. À la deuxième volée de cloches, le valet était complètement revenu à lui. Et l'enfant criait et chantait dans son berceau, aussi sain et bien portant qu'avant.
C'était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. Il était une fois le conte, une émission pour s'instruire, découvrir, rêver. Il était une fois le conte, une émission téléchargeable sur le site ilétaitunefoislecomte.wordpress.com. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
Moi je raconte des histoires que vous m'avez contées. Commencement du monde, le rideau s'ouvre sur la terre. L'aube se lève, la rosée tombe. Comme au théâtre, il faut se taire. On est au commencement du monde, mais y a du sang dans les lilas. Déjà les hommes et les colons ne s'embrassent plus comme autrefois. On est au commencement du monde. On rêve comment, on rêve à quoi? L'enfance est tellement vagabonde, tellement qu'elle ne se souvient pas. On est au commencement du monde, la peur au ventre et les mains vides, la liberté jusqu'à la honte de l'innocence aux dernières rides. On est au commencement du monde, à la fois heureux et en colère. Le geste mou, le poing qui gronde, c'est un départ comme une autre bière. On est au commencement du monde, sur une terre abandonnée. Nos idéaux sont sans royaume, tous les soldats ont déserté. Mais si on prenait nos bagages et qu'on rentrait dans nos souliers, le cœur se saurait en voyage et la raison sous les peupliers. Alors la mer ou la montagne, ou peu importe l'horizon, les artisans sont mélomanes, ils chantent au parfum des moissons. On est au commencement du monde, dans des guenilles et des peut-être, le corps plié jusqu'à se rompre, comme un enfant qui vient de naître. On est au commencement du monde, il y a les mots et la manière. Parfois la vérité se trompe entre la paix et puis la guerre. On est au commencement du monde, c'est l'ange idiot, c'est l'ange ingrat. On est au commencement du monde, il faut nettoyer les lilas.